Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
Eh oui, la matinale infernale est de retour. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission ? Je sais qu'il est tôt. Alors voilà, la matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui... en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. Le principe, former des amateurs à de divers horizons, vous allez le voir par vous-même, à la création de chroniques pour la radio, bien sûr, Radio Graphite, évidemment, et enregistrer leur production sous forme d'émission. Notre matinale infernale. Alors moi, c'est Aurore. J'anime ou je participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture des bibliothèques. Et ce matin, avec moi, mes chroniqueurs sont des participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille, que nous faisons d'ailleurs tous les mercredis soirs. Mes chroniqueurs ont choisi des thématiques variées à partager avec vous dans la bonne humeur, évidemment. Je souhaite la bienvenue dans le studio ce matin à Patty.
Bonjour.
Fatih.
Hello.
Marion.
Bonjour.
Et Benjamin.
Bonjour.
Et il se pourrait même que moi aussi, par moment, je sois chroniqueuse ce matin. Eh bien, honneur aux dames, Patty a choisi un sujet de chronique que vous retrouverez tout au long de nos émissions. Quand ce sera avec ce groupe-là, parce qu'il y aura plein de groupes de gens différents dans la matinale infernale. Et pour Patty, c'est la littérature, l'argent et nous. À toi l'honneur, Patty.
Merci. Bonjour à tous. Avez-vous lu le livre « Le prince et le pauvre » de Mark Twain ? Ce qu'il nous apprend sur l'argent est encore vrai aujourd'hui, aussi surprenant que cela puisse paraître. C'est un conte édité pour la première fois en 1881, il y a plus d'un siècle, qui se déroule à Londres. Il est encore édité par plusieurs éditeurs, les droits de ce livre étant tombés dans le domaine public.
Oui, d'ailleurs, moi j'aime bien le Disney du Prince et le Pauvre. J'ai regardé ça quand j'étais petite et ça me faisait toujours rire et un petit peu rêver parce que je ne savais pas trop si c'était bien d'être le prince ou pas. Mais tu vas nous dire si c'est bien ou pas d'être le prince finalement.
Ah, vous allez le découvrir vous aussi. L'histoire se déroule dans le second quart du XVIe siècle à Londres. Deux garçons, Tom Canty, l'enfant pauvre, et Édouard Tudor, le prince, l'enfant riche, vivent dans deux environnements complètement opposés. Ils se rencontrent par hasard, vont échanger leur tenue vestimentaire, ce qui va les conduire involontairement à permuter leur place et donc à changer de vie. C'est l'idée de base que l'on retrouve dans certaines émissions de télé-réalité de style « On a échangé nos mamans et vis ma vie ». Tom Canty, l'enfant pauvre, sort de sa zone habituelle de promenade. Il en dépasse les limites géographiques. Il n'avait jamais poussé si loin l'une de ses habituelles escapades. Il réfléchit un instant, puis, ressaisi par ses pensées, il franchit l'enceinte de Londres. Puis Édouard Tudor, le jeune prince, curieux, l'aperçoit derrière les grilles du palais royal et ordonne de le laisser entrer. Quel âge ont ces deux garçons quand leur improbable rencontre se produit ? Une douzaine d'années, d'après Wikipédia. Le profond changement de vie des deux jeunes garçons est conditionné par plusieurs disparités entre l'état de richesse du jeune Tudor et celui de pauvreté de Tom. Je ne vous en citerai que certaines, libre à vous de lire cet ouvrage avant-gardiste pour découvrir les autres. La première de ces dissemblances est l'habillement. Le bébé pauvre gazouille dans des haillons, le bébé riche dans la soie et le satin des tissus précieux. Plus tard, au moment de leur rencontre, Tom est en haillons, tandis que la tenue d'Édouard est ainsi décrite. Sur ce vêtement, tout de soie et de satin, des pierres précieuses scintillaient. À son flanc pendaient une dague et une épée, dont les poignées étaient constellées de diamants. De plus, le style de la tenue vestimentaire entraîne un comportement de respect ou d'irrespect. Le jeune prince Édouard, qui a enfilé les haillons de son nouvel ami, sort du palais et un soldat, le prenant pour Tom, lui appliqua au passage une gifle magistrale qui l'envoya rouler sur le sol. « Et maintenant, hors d'ici, petite ordure !» Le titre, sans l'apparat du code vestimentaire qui va avec, n'est pas reconnu par les autres. Quand le petit prince clame, réclame, déclame à plusieurs reprises au cours de l'histoire, sans son habit royal et hors de son milieu social, ses paroles et ses bonnes manières tombent par terre. Autre disparité importante, l'entourage humain. Il est très différent pour les deux garçons dans leur milieu respectif. Édouard est rarement seul. Il est toujours entouré de personnes prêtes à satisfaire ses moindres désirs, des serviteurs, des courtisans. Lors de leur première rencontre enfantine, il était entouré de plusieurs gentilshommes, ses domestiques, à n'en pas douter. C'est un attribut de pouvoir que l'on observe encore aujourd'hui. De plus, Édouard donne des ordres auxquels on obéit, même si un ordre va à l'encontre de ce qui se fait habituellement. « Comment oses-tu traiter de cette façon un sujet du roi mon père, même le plus pauvre, même le plus déshérité ? Ouvre la grille et fais-le entrer !» Plus loin, une demi-douzaine de domestiques s'avancèrent. Sur un geste du prince, ils s'immobilisèrent et demeurèrent figés sur place, comme autant de statues.
Eh bien, merci beaucoup, Patty, pour cette première chronique sur le prince et le pauvre, parce que voilà, j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche, il y en aura une autre. Voilà, on reste un peu sur notre faim et c'est fait exprès. Voilà. Et d'ailleurs, Patty, je m'excuse, nous avons oublié ton petit jingle, puisque c'est notre première émission de la matinale infernale, on n'est pas encore rodé. Eh bien, voilà, du coup, vous aurez le droit à chaque fois à ça quand Patty parlera. Puisqu'on est donc sur la littérature, l'argent et nous. Un autre sujet nous appelle maintenant, avec Marion, les handicaps en question. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Bonjour, chères auditrices et auditeurs et chers co-animateurs. Le titre de ma chronique aujourd'hui, « Handicapé mais debout ». Une petite question pour commencer cette chronique. Quelle image vous vient spontanément en tête si je vous dis le mot handicap ?
Fauteuil roulant.
Ouais, pareil.
Voilà, eh bien, fausse idée. Il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. Et en France, si 2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative de leur handicap, une question au Sénat posée en juillet 2022 indiquerait le chiffre de 13 millions, soit aux alentours de 20% de la population française. Quelle est donc la définition du handicap ? Selon la loi du 11 février 2005, que je simplifie ici, mais que vous pourrez lire si
merci
vous voulez
Marie.
Avoir les indications, des fois c'est un peu alambiqué les mots utilisés dans les lois, est considéré comme handicap ou toute atteinte subie par une personne au niveau physique ou mental, de façon passagère ou définitive, de sorte que son autonomie, son aptitude à acquérir des apprentissages ou à occuper un emploi se trouve compromis de façon ponctuelle ou durable. Voyons maintenant plus en détail les différentes classifications de handicap. Et pour cela, nous allons faire un petit cours d'anatomie. Vous verrez, j'aime bien ces petits cours d'anatomie, vous retrouverez quelques-uns dans mes chroniques. Notre corps est donc constitué d'eau, de muscles et de nerfs. L'ensemble des atteintes de ces parties vont être classées dans le handicap physique ou moteur. Nous retrouvons également, pour tout ce qui va altérer la vision, le handicap visuel et tout ce qui va porter atteinte à l'audition, le handicap auditif. En ce qui concerne les maladies touchant les organes internes, comme le diabète ou le cancer, elles vont être définies comme maladies invalidantes. Il nous reste trois grandes classes de handicap qui vont toucher un seul et même organe. À votre avis, lequel ?
Le cerveau.
Le cerveau, effectivement.
J'étais pas sûre.
Et oui, le cerveau, tellement complexe. Dans les atteintes du cerveau, nous allons retrouver le handicap mental, le plus connu étant la trisomie 21, le handicap psychique, donc on y retrouve la schizophrénie, par exemple, mais également les TOC ou la dépression. Et enfin, le handicap cognitif, qui va regrouper les atteintes à une ou plusieurs parties du cerveau, comme les troubles dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, il y en a plusieurs. Et même si à ce jour, il est encore classé à part, l'autisme a été effectivement déterminé comme une maladie neurologique. Donc, si nous reprenons les différentes classifications aujourd'hui, car rien n'empêche que de nouvelles catégories voient le jour en fonction des découvertes scientifiques, Nous avons le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, les maladies invalidantes, le handicap mental, le handicap psychique et le handicap cognitif. Pour en connaître un peu plus sur chacun de ces handicaps, je vous invite à me suivre dans mes prochaines chroniques Marion, les handicaps en question. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter différents sites comme handicap.gouv.fr, agfip.fr, mdph.oise.fr ou encore capemploi-du660.com. À bientôt.
Merci beaucoup Marion d'éclairer nos lanternes sur cette thématique encore beaucoup trop taboue et dont on n'ose pas toujours parler, en tout cas avec des mots simples et voilà, faciles à aborder.
Et voilà, c'est effectivement l'objectif.
Eh bien, je vous propose une transition musicale vers notre prochaine thématique et vous allez vite deviner de quoi il s'agit. On revient après la musique. Nous sommes de retour sur Graphite dans la matinale
infernale.
Alors, avec la femme chocolat d'Olivia Ruiz, est-ce que vous avez trouvé de quoi nous allons parler ?
Chocolat ?
Des gourmandises ? Eh bien, c'est Benjamin qui va aborder le thème des addictions. Et aujourd'hui, plus précisément, je te laisse. Allez, je te laisse.
Bonjour à toutes et à tous. Dans cette chronique, je vais vous parler de l'addiction sur la nourriture. Je vous ai préparé un petit quiz et je vais commencer par la première question. C'est quoi être addict à la nourriture ?
Ne pas s'empêcher de manger ? Pas pouvoir s'empêcher ?
Ouais. Eh bien, c'est quand une personne est dépendante à l'alimentation. Ces personnes ont des apports énergétiques plus élevés et ils ont une consommation plus importante d'aliments à la fois riches en graisse et en glucides raffinés.
Raffinés.
Oui, raffiné. petit cours, c'est quoi les glucides raffinés?
C'est le chocolat, non? C'est pas le chocolat.
Gâteau.
Dis-nous tout.
Bonne question.
Les glucides raffinés comportent principalement des sucres et des céréales transformées. Le sucre égal au chocolat et les céréales de la marque Nesquik.
Par exemple.
Oui, l'exemple. ils conduisent à des augmentations rapides de taux de sucre dans le sang. Voilà, c'était le petit cours sur les glucides. Retournons à nos addictions. Les études réalisées dans le monde montrent que dans une population de poids normal environ dans les 70 kilos, 10% présente ce genre d'addiction, environ une personne sur 10.
D'accord, donc on n'a pas besoin d'être obèse pour être addict à la nourriture, voilà. En fait, c'est ça que ça veut dire.
Oui. Et ce pourcentage augmente, il atteint 40 à 60% chez les personnes obèses. Deuxième question, tous les sucres et graisses sont-ils concernés?
Peut-être pas les sucres naturels ou...
Oui, j'allais dire, si je mange un fruit, plein de fruits, je ne suis pas addict à la nourriture. Dis-moi.
Alors non, il ne s'agit pas des graisses ou des sucres purs, mais des produits manufacturés et transformés qui contiennent plusieurs ingrédients, comme par exemple les plats transformés, préparés industriellement. La plupart des produits concernés par ces études sont riches en sucre raffiné.
Raffiné.
troisième question, à partir de quand doit-on s'en inquiéter?
Est-ce qu'on s'en rend compte pour s'en inquiéter? C'est ça le truc.
Je sais pas, c'est qu'on devient, ça devient une alimentation unique.
Quand je prends 10 kilos en un mois, je dois m'inquiéter.
Quand on peut maîtriser.
Ouais.
On parle de problème si on détermine que la consommation, quelle que soit sa quantité, pose des soucis de santé, de comportement. Si malgré cette prise de conscience, la personne continue sa consommation, il y aura des conséquences négatives, alors il y aura addiction. Elle ne va pas pouvoir arrêter car le désir y est trop fort.
Ah oui, si on dit « Benjamin, arrête de manger des chips ». Non, je veux pas.
Mais voilà. quatrième et dernière question, comment s'en sortir?
Il faut consulter, certainement.
Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose, surtout sur l'addiction au sucre. On a identifié un certain nombre de mécanismes, mais on est très loin de comprendre comment le sucre peut faire... Le sucre peut modifier le cerveau à tel point que l'individu en vient à perdre le contrôle de sa consommation. La plupart des personnes dépendantes tentent d'arrêter plusieurs fois avant de réussir à long terme. On peut surmonter ces addictions seul ou aidé par un psychiatre ou un psychologue ou un psychiatre qui a de l'expérience dans le traitement des dépendances alimentaires. Ils peuvent vous apporter un soutien individuel. Si vous voulez réussir seul, dressez une liste des avantages et des inconvénients à l'abandon des aliments déclencheurs. Mais vous pouvez toujours garder ce plaisir de manger du chocolat avec modération.
Ouf.
Quand même.
Merci beaucoup, Benjamin, de nous rappeler que c'est surtout les produits transformés, finalement, moi, c'est ça que je retiens, qui ont des inconvénients et non des moindres, puisque c'est surtout ceux-là qui favorisent les addictions, si j'ai tout bien compris. Hein.
Oui.
Et voilà, toujours privilégier les produits frais, locaux, de saison, qu'on cuisine soi-même, avec amour, tout ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je vais enchaîner avec ma propre chronique. Tiens, voilà. Personne ne me fait de transition, je me transite toute seule. All I'm asking you is don't write me off just yet. Alors moi, j'ai envie d'aborder des sujets autour de l'écriture et notamment des sujets sur les erreurs que peuvent faire les auteurs débutants ou les gens qui ont envie d'écrire, pas forcément encore auteurs, mais voilà, qui commencent à écrire. Alors selon vous, quelle est la chose la plus importante dans un récit?
Les personnages?
L'histoire?
Les rebondissements.
Ben, moi, je suis d'accord avec Patricia, avec Patty. Pour moi, ce sont les personnages qui sont la chose la plus importante dans un récit, parce que c'est l'humain derrière chaque histoire. Et pourquoi je trouve que c'est ça le plus important ? Parce que dans chaque histoire, ou presque, il va y avoir celui qu'on appelle le héros. Alors, je précise que ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça. Hein, je reprends les termes de Joseph Campbell et Christopher Vogler à l'initiative de leur analyse « Le voyage du héros ». Et ce héros, il évolue entre le début et la fin de l'histoire. Et c'est primordial qu'il évolue. Parce que si votre personnage principal ne change pas entre le début et la fin de votre récit, c'est qu'il y a quand même un loupé quelque part. C'est donc une erreur de débutant. Le héros doit avoir appris quelque chose de son voyage. Il doit avoir été transformé d'une manière ou d'une autre par son aventure. Cette transformation est souvent intérieure et ne peut concerner qu'un aspect de sa personnalité. Il peut avoir appris la patience, la résilience, la persévérance, la confiance, le courage, l'indépendance, la puissance de l'amitié ou de l'amour. Bref, vous l'aurez compris, la liste est sans fin. Je pense par exemple à des héros comme Harry Potter, qui aurait appris l'amitié, en tout cas la puissance de l'amitié, Thomas de la saga Le Labyrinthe, ou bien même Ulysse pour la littérature classique, qui fait un voyage réel pour le coup, et qui apprend bien des choses au cours de son voyage. L'aventure que le héros a traversée peut aussi l'avoir mis à l'épreuve d'une manière telle qu'il n'est plus tout à fait le même, voire plus du tout le même, qu'au début. Là, je pense à des héros un peu comme Katniss Everdeen de la saga Hunger Games, qui a été un peu brisé par son voyage, entre guillemets. Hein. Le hobbit le plus connu du monde, je pense à Frodo Sacquet du Seigneur des Anneaux, bien sûr, qui est tellement plus le même qu'il va finir par partir avec les elfes. Il a pu se sentir assez à l'aise dans sa contrée, dans sa comté même, je dirais. Ou bien Daenerys ou Arya de la saga Game of Thrones, qui ne sont pas du tout les mêmes au début, qui sont des jeunes filles innocentes en début de saga, et puis qui tournent chacune à leur manière, de manière complètement différente. On peut aussi citer des chemins beaucoup plus intérieurs, comme pour les deux cow-boys du film Le Secret de Broadback Mountain, ou le couple aussi loufoque qu'attachant de En attendant Bone Jungles, qui sont aussi des films d'ailleurs. Ceux qui ne les auraient pas vus. En règle générale, en tout cas, le héros ne change pas du tout au tout, ou du moins pas en un clin d'œil, ça c'est sûr. Son évolution se fait pas à pas et au fil de ses expériences dans l'histoire. La résolution de l'intrigue, pardon, n'est donc pas le seul élément qui fait passer une histoire de son début, sa situation initiale, à sa situation finale. Ce sont bien les personnages qui sont au cœur d'un récit. Et le voyage du héros, pour reprendre une dernière fois les termes de Joseph Campbell et Christopher Vogler, les expériences qu'il va vivre au fil des choix qu'il va faire, en résumé, son évolution, c'est ça aussi qui construit le chemin qui mène à la fin. Voilà, voilà.
Merci.
Oh, merci. De rien. Eh bien, Fatih, on va terminer avec toi. Fatih, la féministe, d'ailleurs.
Hello tout le monde, petite chronique du matin, histoire de bien commencer le week-end pour vous parler aujourd'hui d'un sujet sérieux, très sérieux, l'odonymie. Qu'est-ce? Eh bien, dixit Wikipédia, il s'agit de l'étude des odonymes, noms propres désignant une voie de communication. En clair, on va dire que l'odonymie est l'étude du nom des rues avec un grand R. Mais quel lien avec le féminisme? Vous me voyez arriver avec mes petits sabots, non? Eh bien, les odonymes de nos villes et villages sont majoritairement attribués à des noms d'hommes, avec un petit H. Bon, d'accord, un petit H, mais pour des grands hommes, illustres pour la plupart. Je dis bien pour la plupart, car autant il y a ceux que l'histoire avec un grand H n'oubliera jamais, autant il y a ceux pas moins importants que l'histoire locale consacre par ce biais. Mais revenons à notre sujet. Où sont les femmes, comme chantait déjà Patrick Jouvet en 1977, devenu ainsi la star du disco français. Aussi, permettez-moi une petite digression. À l'époque, le parolier Jean-Michel Jarre abordait dans cette chanson les conséquences du féminisme. Je vous invite à écouter attentivement les paroles. « Finalement, où est la femme charmante et passive d'autrefois » semble-t-il nous dire tout en décrivant une femme forte et libre. Un brin nostalgique, le Jean-Michel, non ? Bref, je reprends donc la question « Où sont les femmes dans l'espace public ?» Eh bien, les femmes y sont sous-représentées, alors même qu'elles représentent à peu près la moitié des êtres humains habitant sur notre bonne vieille terre, notre espace public commun, justement. On peut donc parler d'invisibilité de la femme dans l'espace public. Notre bonne vieille ville impériale n'échappe bien entendu pas à la règle. Les femmes sont sous-représentées parmi les noms de nos rues compiénoises. Et j'ai compté, non pas en parcourant de long en large et en travers notre espace public impérial, mais en faisant appel à Google et mon ami. Un site m'a fourni la liste de tous les noms de rues, squares, avenues, places, impasses, allées, centres commerciaux et maisons forestières, carrefours, passages, routes, chemins, quais, lieux-dits, boulevards, ronds-points, cours, ouais, sentiers, parcs, promenades, voilà, et parvis. Oh, cela en fait des zones d'errance pédestre. Par contre, je ne me plains pas, mais à l'heure du tout automatique, j'ai quand même dû en faire le comptage manuel et sans calculatrice. 515 odonymes, parmi lesquels 32 noms de femmes, soit 6%. Donc en phase avec les 5% de rues et les 2% de boulevards au niveau national à qui ont été attribués un nom féminin. Bon, ça c'est fait. Les femmes sont bien sous-représentées. Mais Fatih, la féministe que je suis, a voulu aller plus loin avec une petite analyse de comptoir de bar. Quand chez les hommes, on retrouve une majorité d'hommes au passé militaire exemplaire, entre autres, chez les femmes, qu'avons-nous ? Une aviatrice, une joueuse de tennis, une modiste célèbre, une poétesse et romancière, une assistante sociale œuvrant pendant la Seconde Guerre mondiale, une juste parmi les justes avec son époux, une donatrice, une militante et nièce du président Charles de Gaulle, une conseillère municipale, une jeune femme assassinée, une scientifique dont le prénom Marie est accolé à celui de son mari Pierre, une impératrice, la nôtre, une sœur, huit saintes, la sacro-sainte Jeanne d'Arc et dix nymphes et autres héroïnes de la mythologie. Si j'ai bien compté, plus largement, plus de la moitié, ce sont soit des saintes, soit des nymphes et autres divinités. Oui, vous avez bien entendu. Des nymphes issues de la mythologie grecque, supposément n'ayant pas existé, soit dit en passant. Des idéaux féminins qui auraient inspiré nos mâles dominants de l'époque, peut-être. Soit. Mais, mesdames, l'idéal masculin, on en parle ?
Oui.
Vous me direz, bon, ok, à l'époque de l'attribution de ces noms de rue, les femmes étaient cantonnées à des rôles bien précis et n'avaient pas le droit à l'instruction, sauf au cours de la bonne ménagère, bien entendu. Pour reprendre les propos de Simone de Beauvoir, la femme est toujours la subordonnée à l'homme, la plupart du temps, elle est un objet sexuel ou une servante économique. Heureusement, il y a quand même des femmes ayant eu un rôle sociétal et je leur tire mon chapeau, car dans un monde patriarcal, oui ça y est, j'ai lâché le mot, ça n'a pas dû être facile et cela peut aussi expliquer le nombre infime de femmes reconnues publiquement et officiellement. Par contre, qu'on m'explique pourquoi de nouveaux quartiers se sont vus attribuer des noms féminins de nymphes. S'agit-il d'un petit relan rétrograde, d'un manque d'inspiration ou plutôt de la fameuse référence à l'histoire locale? Ces allées se situent dans un quartier en bordure de notre forêt domaniale. Et comme chacun sait, l'espace forestier a été de tout temps propice aux mystères et apparitions de créatures extraordinaires. Ceci étant dit, les femmes, les vraies, celles qui ont marqué l'histoire avec un grand H, ne manquent pas. Les femmes, les vraies, celles qui ont marqué l'histoire locale non plus. Et vous, vous en connaissez plein de femmes extraordinaires, j'en suis sûre.
Oh ben oui, on en connaît.
Certainement.
Plein. D'autres que Jeanne d'Arc. Merci beaucoup Fatih, c'est très intéressant et je sais que tu reviendras dessus dans d'autres chroniques pour nous parler un peu plus en détail de ces femmes.
Tout à fait.
Eh bien cette émission touche, je savais que j'allais pas réussir à le dire, cette émission touche à sa fin. On termine en musique avec un morceau choisi par l'équipe du jour et qui rend hommage aux femmes. Eh oui, un beau morceau de John Lennon, Woman. Merci à vous, mes chroniqueuses, Patty, Fatih, Marion, et à toi, mon chroniqueur, Benjamin. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, et à bientôt pour une prochaine émission de la matinale
infernale. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Bye. Au revoir.
Express my mixed emotions and my thoughts.